RPL, l'autre style de radio.
Nous avons le plaisir de recevoir Yolande Pajolo. Bonjour.
Bonjour Jean-Marie.
Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de myreseau.com avec Marie Di Franco où vous animiez un atelier, si on peut dire, peur et anxiété. Avant de revenir plus en détail sur cet atelier et sur votre parcours, notamment votre formation à l'Institut Neurosciences Appliquées, nous en reparlerons longuement durant cet entretien. Parlez-moi tout d'abord de votre affiliation à myreseau.
Donc pour moi, c'est un beau partenariat que j'ai signé avec la SAEML, avec Marie Di Franco, et pour les conférences qui ont lieu au CESCOM. C'est arrivé à la suite d'une première conférence que j'ai fait sur la thématique des hauts potentiels, sujet très mal connu. Cette première conférence a fait ressortir le fait que l'humain et la santé mentale sont absolument prioritaires. C'est Marie Di Franco qui, au vu de ce succès, m'a proposé d'animer un atelier, ce que j'ai bien évidemment accepté de grand cœur. Et tous les deux mois, il va y avoir un atelier des neurosciences, by Yolande Pajolo, où on évoquera des thèmes qui permettront un mieux-être. Et donc, nous avions cette thématique de comment vaincre ses peurs et son anxiété, mais tous les deux mois, il y aura d'autres thématiques. La prochaine devrait être développer la confiance en soi et l'estime de soi. J'en ferai très certainement une sur la colère. Voilà, donc la santé mentale est bien entrée maintenant au CESCOM.
Nous aurons donc l'occasion de nous revoir puisque RPL Radio est partenaire avec myreseau. Alors la dernière fois, l'atelier que vous animiez était sur les peurs et les anxiétés. Ce sont deux choses différentes et pourtant, quelquefois, ce sont deux aspects psychologiques qui peuvent être très perturbant au quotidien, dans sa vie professionnelle et autre aussi.
Oui, absolument. Il y a une différence entre peur et anxiété. L'anxiété est un état psychophysiologique. Vous savez, on parle souvent d'une personne, « Oh, elle est anxieuse, cette personne-là ». On est bien dans un état d'anxiété où on se fait souvent du mouron. Alors que les peurs, ce sont des peurs sur quelque chose de précis. Ça peut être la peur de prendre l'avion, la peur des araignées, mais également des peurs comme la peur du changement. Quelqu'un qui se lancerait dans l'entrepreneuriat peut avoir la peur de l'échec, qui va souvent avec la peur de la réussite. Ça, chaque fois que j'en parle, ça scotche toujours tout le monde. Oui, oui, parce qu'en fait, la peur de l'échec, c'est quelque chose de conscient, mais généralement, elle va aussi avec la peur de la réussite, qui là est totalement inconscient. C'est-à-dire que la réussite peut amener des changements dans sa vie privée et que sans s'en rendre compte, ça nous freine aussi. Donc il y a des tas de peurs, on peut les traiter chacune individuellement. Alors que l'anxiété est un état beaucoup plus profond, qui est dû, on va dire, plus à l'actualité. Quand on voit les guerres qui se passent dans le monde, on a maintenant l'éco-anxiété avec le changement climatique. Il y a de nombreuses anxiétés. Et là, c'est permanent. C'est-à-dire que quand on est dans l'anxiété, on imagine des choses qui pourraient arriver.
Il y a de quoi être inquiet en ce moment. Hein. Il y a de quoi être anxieux en ce moment.
Oh que oui. Et pourquoi est-ce que ça me tient particulièrement à cœur de m'attaquer à l'anxiété? C'est que l'anxiété est quelque chose qui empêche d'être heureux.
On vit mal avec ça en permanence.
On vit très mal. Vous verrez rarement une personne anxieuse sourire, chanter. Voilà, c'est un état où régulièrement on a peur de quelque chose. Donc c'est un état permanent où viennent se créer plein de peurs.
D'où ça vient ? On est anxieux petit et on va grandir en restant anxieux, ou ce sont des choses qu'on développe inconsciemment ?
Généralement, l'anxiété débute dès tout petit. Et là, le contexte familial, l'environnement, va faire qu'il va y avoir des répercussions. Une maman anxieuse, par exemple, qui va toujours avoir peur que son petit tombe, qu'il ait une bosse, qu'il se brûle. Si elle est anxieuse, elle va être toujours en train de le surveiller. Elle va le voir s'approcher du four. Attention, attention, attention à ci, attention à ça. Et ça, l'anxiété et la peur, ce sont des émotions contagieuses. Ce qui fait que, dès tout petit, un enfant peut devenir anxieux sans aucun motif d'anxiété, mais simplement par contagion, de ce que l'entourage va faire. Donc pour moi, c'est important que des adultes qui sont anxieux puissent se libérer de ça pour pas le transmettre ni à ses enfants, mais ça peut être également en entreprise. Un patron qui est anxieux, toute son équipe va être anxieuse. Ce n'est pas bon pour l'entreprise et le développement de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on peut s'attaquer parce que c'est contagieux.
Aujourd'hui, vous êtes coach, on va en reparler tout à l'heure. Est-ce que c'est facile de sortir de cet état ?
Je ne dirais pas que c'est facile. Il y a quelques ingrédients qui sont absolument nécessaires. C'est un, de se rendre compte que l'on est anxieux et qu'on peut sortir et se libérer de cet état. Une fois qu'on en a pris conscience, il faut en avoir la volonté et la motivation.
Il y a des outils ?
Ah ben, bien sûr, en tant que coach, moi je vais aider à ça. Mais la première chose, c'est quand même la volonté et la motivation de la personne. Ça met un certain temps. C'est-à-dire que si je décide aujourd'hui, ça y est, je m'attaque à mon anxiété et je veux m'en débarrasser, ça va prendre quand même quelques mois. En général, un coaching, ça dure à peu près 6 mois. Parce qu'il faut à peu près 6 mois pour ancrer en soi et modifier les choses en soi. Donc ça prend quand même à peu près 6 mois.
Vous qui intervenez, est-ce que vous intervenez de façon individuelle avec des gens, ou est-ce qu'on peut également intervenir de façon collective dans un groupe ?
Les deux. Individuellement, là c'est vraiment un accompagnement personnel où on va aller rechercher la cause de l'anxiété. Parce que si on ne connaît pas la cause réelle, on n'arrivera pas à s'en libérer. Donc, un coaching individuel permet d'aller chercher la cause. En coaching collectif, on peut le faire aussi, parce que le mécanisme pour s'en libérer sera le même. Après, chacun va aller retrouver dans son enfance ou dans son adolescence, où l'anxiété peut être née simplement une fois qu'on était adulte.
Oui.
Voilà. Mais le mécanisme pour s'en libérer sera le même. Simplement, plus c'est ancré tôt, c'est-à-dire si l'anxiété vient déjà de la petite enfance et que l'anxiété a duré pendant 30 ans, voilà, au bout de 30 ans, pour se libérer de ça, ça va quand même être un petit peu plus long, mais il va y avoir des techniques différentes.
Comment on prend conscience vraiment qu'on est anxieux ? Parce que peut-être qu'on peut être anxieux sans trop le savoir.
Bien sûr, bien sûr. Les premiers signes, je dirais qu'une personne qui est anxieuse sourit jamais ou très peu. Elle va rire de temps en temps, une petite blague, un petit quelque chose comme ça. Mais naturellement et spontanément, une personne anxieuse est rarement une personne souriante. Elle va être plutôt triste, Et elle va être toujours sur ses gardes. Elle ne sait pas se libérer et profiter de l'instant présent, profiter des petites joies et de toutes ces choses-là. Donc, dans les différentes techniques que l'on va instaurer pour se libérer de l'anxiété, c'est déjà de remettre toutes ces choses qui manquent. Savoir remettre de la joie au quotidien, de la musique. Eh oui,
Ça tombe bien, on est à la radio.
Jean-Marie, on est à la radio. Voilà. Une personne anxieuse va peut-être avoir BFM TV allumé toute la journée à la télé et n'écouter que les informations avec tout ce qu'on entend dans le monde. Bien, déjà, ça c'est une simple action. Se libérer de ces choses-là. Les infos, on les regarde un quart d'heure, une demi-heure dans la journée, c'est largement suffisant. Et puis, on se met une belle musique avec un animateur comme Jean-Marie. Et puis, faire son ménage en musique et en chantant, c'est quand même mieux qu'en regardant BFM TV, ce qui se passe dans le monde.
Bien d'accord avec vous. Donc ces travaux-là que vous pour lesquels vous intervenez avec MyRéseau, eh bien on peut avoir la chance de vous retrouver une fois tous les 2 mois. Merci Yolande Pagelot, vous êtes notre invitée de cette semaine. Nous allons maintenant parcourir un petit peu découvrir un peu votre parcours parce que vous exercez cette activité-là depuis peu de temps. Vous sortez de l'Institut des neurosciences appliquées. Comment on arrive, Yolande Pagelot, à aller vers ce type de découverte-là.
Alors, ça n'est pas une vraie découverte, dans le sens où maintenant, eh oui, j'ai un certain âge, et j'ai eu toute une carrière, très riche et très diversifiée, dans des grandes entreprises. Et notamment, ma passion est née il y a 25-30 ans, lorsque j'ai déjà, dans un premier temps, été conseil, consultante, formatrice pour les entreprises, pour des équipes. Et à l'époque, je dirais que ça s'appelait les accompagnateurs du changement. C'est quoi être accompagnateur du changement? Bien, c'est partir d'une situation A, pas très satisfaisante, pour aller vers une situation B, nettement plus épanouissante ou réussie.
Pas très satisfaisante pour l'employé ou pour l'entreprise, c'est différent. Les deux.
Pour les deux, parce que si l'employé se sent bien, l'entreprise se sentira bien aussi. Donc, j'accompagnais des dossiers sur des fusions d'entreprises, sur des réorganisations, quelquefois dans des équipes où ça se passait très mal. Le dialogue social n'est pas toujours chose aisée. Donc, lorsqu'on a une difficulté, comment on fait pour s'en libérer? Et de toute façon, et l'entreprise, et les employés, et le patron, tout le monde sera heureux si on a fait ce chemin. Donc ça fait 25-30 ans que je suis une accompagnatrice du changement. Et puis arrive 2020, le Covid.
Aïe,
Aïe.
ou pas.
Alors, aïe pour mon activité, parce que forcément, tout s'arrête. Voilà. Et déjà de voir la santé mentale qui en prend un coup, pour moi, c'était quelque chose d'important. Ça fait partie de mon ADN. Et là, je me dis, puisque on va avoir un peu plus de temps à la maison, je mets le nez dans les neurosciences, et plus particulièrement les neurosciences appliquées de l'Institut des neurosciences appliquées. Et là, waouh, ça a été pour moi quelque chose de plus qui me professionnalisait encore plus dans cet accompagnement du changement. Et là, j'ai fait un virage. Je me suis dit, je ne veux plus appliquer cet accompagnement du changement uniquement aux entreprises, mais je veux aider l'ensemble des personnes. Les neurosciences appliquées, qu'est-ce que c'est? Bon, les neurosciences, c'est le fonctionnement de notre cerveau. On va passer vite si je vous dis quelques petits mots comme hypothalamus, amygdale, cortex préfrontal, cervelet et toutes ces choses-là. Voilà. C'est ce qui permet de comprendre comment fonctionne notre cerveau et surtout comment il déclenche certaines émotions. Comment il déclenche la peur. Pourquoi est-ce que certains ont peur des araignées? Pourquoi certains les trouvent adorables? Alors qu'il n'y a pas plus de danger pour l'un ou pour l'autre. Eh bien ça, quand on comprend comment fonctionne notre cerveau, on comprend comment on peut s'en libérer. Donc pour moi, les neurosciences appliquées, ça m'a permis de passer à un niveau supérieur. Donc maintenant, depuis 4 ans, j'y ai fait ma formation de coach, certifié en neurosciences appliquées. Il y a une particularité que j'aime beaucoup, ce sont les neuroatypiques, c'est-à-dire les hauts potentiels, autistes Asperger, dont il y a tellement d'amalgames qui traînent partout que j'ai voulu aussi me spécialiser sur ce niveau-là. Mais je continue à travailler maintenant avec l'Institut des neurosciences appliquées. J'y suis formatrice, jury et j'encadre des coachs débutants. Mais mon activité principale, dans mon cœur, je dirais, c'est vraiment d'être coach et d'être conférencière. Parce que coach, ça me permet d'aider directement certaines personnes sur une thématique particulière pendant 6 mois. Mais au travers de mes conférences, ça me permet aussi d'aider toutes les personnes qui ne pourraient pas avoir accès à un coach ou un psychologue pour se libérer de ces souffrances, de ces traumas du passé qui nous créent des peurs, qui nous créent de la colère, qui nous créent toutes nos émotions trop fortes qui nous font souffrir. Donc pour moi, au travers de mes conférences, je peux aider également toutes les personnes parce que j'ai un mantra puissant dans l'accompagnement du changement depuis plus de 30 ans. C'est que pour évoluer, il faut 3 choses. Comprendre, donc là, c'est comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi ça arrive. Analyser les répercussions que ça a dans notre vie. Et surtout, le troisième, le plus important, agir. Voilà. Et donner des petites choses pratiques. Je vous ai dit, coupez BFM TV, mettez de la musique, chantez, écoutez Jean-Marie. Mais le soir, tiens, je vous donne un petit truc à tous. Le soir, quand on se couche, notre cerveau continue à... se balader de tous les côtés et on a plutôt tendance à regarder ce qu'il y a eu dans la journée, ce qui n'était pas terrible et demain il faut que je me prépare à ci ou à ça et ça c'est pas terrible. Voilà. Eh bien le soir, vous allez changer tout ça. Au moment où vous allez vous coucher et que vous allez penser, essayez de vous souvenir des moments de joie que vous avez eus dans la journée. Ça peut être le sourire de la boulangère quand vous lui avez dit « Oh, elle est bien, votre nouvelle coiffure !» Ça peut être « J'ai écouté l'émission de Jean-Marie, oh, super musique !» Voilà, vous faites le bilan et vous cherchez tous les moments de joie que vous avez eus dans la journée. Et après, vous vous dites « Qu'est-ce que je pourrais me préparer comme moment de joie pour demain ?» Eh oui, eh bien ça va fabriquer dans votre corps de la sérotonine et de la dopamine, c'est-à-dire tout ce qui est bon pour passer une bonne nuit, pour éviter les insomnies, parce que vous vous endormez cool et zen.
C'est pas toujours facile, parce que si on a eu une journée compliquée, mais on peut, vous le dites, à la fin, les 3 derniers, le money time presque oui. De la journée, oui. On peut...
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se rendre compte, au moment où vous allez vous coucher, ok, vous repensez à un gros dossier du boulot, vous repensez à quelque chose. C'est normal d'y penser. Mais c'est de se dire, bon, allez, ça fait 5 minutes que je pense à ça, c'est pas la peine que je passe la soirée là-dessus. De toute façon, je traiterai le dossier demain. Allez, maintenant, avant de m'endormir, c'était quoi mes moments de joie? Et ça sera quoi mes moments de joie de demain?
De demain.
Voilà.
Voilà.
Et là, ça va vous aider à avoir un bon sommeil. Et si vous faites ça tous les soirs, je peux vous dire que c'est un excellent remède à l'anxiété.
J'ai testé ces derniers jours
Ah!
et ça fonctionne. Vous parliez, Yolande Pagelot, notre invitée de cette semaine, vous parliez de musique. C'est le moment de la pause musicale et c'est vous qui allez jouer la programmatrice sur notre antenne. Qu'est-ce que vous avez choisi pour ravir nos auditeurs d'un point de vue auditif?
John Lennon, Imagine. Parce que si on veut changer, il faut bien imaginer un futur nettement plus beau que le présent.
On y va, on écoute tout de suite ça sur RPL et on retrouve notre invité juste après.
RPL, l'autre style de radio.
Voilà, à l'instant, c'était Imagine de John Lennon. Nous retrouvons notre invitée Yolande Pagelot. Nous parlions de votre formation, de votre passage à l'Institut des neurosciences appliquées. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout cela? Vous en êtes sorti avec l'envie de dire, eh ben maintenant, je sais ce que je veux faire, je vais aller dans cette activité-là, parce que c'est devenu une activité aujourd'hui.
Oui, c'est complètement une activité. C'est-à-dire qu'avant, j'étais accompagnatrice du changement pour aider les entreprises. Maintenant, j'aide individuellement toute personne à évoluer dans sa vie. Parce que quand on est dans les neurosciences, on est dans nos émotions, dans nos sentiments. comprendre comment on fonctionne permet de comprendre comment être plus heureux dans sa vie de famille, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Ça peut aider à passer un cap. Des caps qui peuvent être très importants, comme un divorce, quitter une entreprise pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ça, c'est notre vie à tous, au quotidien. Nous ne sommes qu'émotions, du matin au soir. Sachant que dans les émotions de base, les six principales, il n'y en a qu'une seule qui est réellement très très agréable, c'est la joie. Les autres émotions, nous avons la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Toutes ces choses-là, ça fait partie de notre vie. Donc quand nous parlions tout à l'heure d'anxiété, quand on est anxieux, on ne connaît pas la joie. Donc on se laisse aller à tout le reste. Ce qui fait que, au travers de mes conférences ou de mes coachings, moi, mon bonheur, c'est de rendre les autres plus heureux.
Merci. Alors, éclairez-nous un petit peu sur les différents paliers qu'il peut y avoir. Hein. On parlait de neurosciences avec vous. Entre cette étape-là de coaching, le psychologue, voire le psychiatre après, comment vous situez-vous dans tout cet environnement-là? Est-ce qu'il y a des étapes? Si oui, lesquelles?
Alors, je comprends, parce que tout le monde me pose toujours la question. Si j'ai un problème, est-ce que je dois aller voir un coach, un psychologue, un psychiatre? Mais déjà, quelle est la différence? Un psychiatre, ce sont des études médicales longues, et s'il y a besoin, on va dire, d'un traitement spécifique, seul un psychiatre peut vous signer une ordonnance et avoir un traitement médicamenteux en plus du traitement d'accompagnement pour se libérer de ses freins. Le psychologue également a une formation et chez les psychologues, nous pouvons, et tout comme les psychiatres, nous pouvons avoir aussi des techniques un peu plus particulières. On va les passer rapidement, mais le MDR, le EFT sont des techniques qui nécessitent un diplôme et une formation lourde. Le MDR, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé, c'est cette technique où on vous fait bouger les yeux et autres. Là, c'est vraiment pour se libérer de gros traumatismes du passé. Mais si on veut simplifier, je dirais que nous sommes complémentaires. Moi, je travaille avec des psychologues. J'ai des clients qui me sont envoyés par des psychologues et j'ai des clients en coaching pour qui je leur dis « ça serait bien que sur ce point-là, vous voyez un psychologue ». C'est-à-dire que nous sommes complémentaires. En quoi, si on veut faire simple, le psychologue et le psychiatre vont essentiellement travailler sur votre passé qui a laissé des traces qui font mal, ce qu'on appelle les traumas du passé, pour mieux vivre son présent. Et quand on commence avec un psychiatre ou un psychologue, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le coaching, c'est différent dans le sens où on travaille plutôt sur le présent tel qu'il est et un objectif à atteindre dans le futur, avec des actions pendant 6 mois. C'est à peu près la durée moyenne, un coaching. Mais dans un coaching, au départ, avec le client, on détermine sur quel thème il va vouloir travailler. Et chacun a des thèmes qui vont varier totalement, ça peut être dans la vie professionnelle. Je vous donne des exemples. J'ai un jeune homme diplômé qui sort d'école de commerce et qui doit se lancer dans sa vie active. Il est en train de se chercher et il a tous les freins de passer à la vie professionnelle. Donc là, c'est cet objectif-là qui va être traité. Par contre, je peux avoir des personnes qui vont être hypersensibles. L'hypersensibilité est quelque chose qui peut faire souffrir si on ne sait pas la maîtriser. Donc j'ai des personnes qui souhaitent, on va dire, apprivoiser, si on peut dire ce terme-là, leur hypersensibilité. Certains vont avoir de l'anxiété. Et ça, l'anxiété, pour s'en libérer, c'est quand même mieux de se faire accompagner. C'est rare de pouvoir se libérer seul d'un tempérament anxieux qui est ancré depuis très très longtemps. Donc, nous sommes complémentaires sur certaines choses. Voilà.
D'accord. Quelles qualités faut-il avoir pour exercer une activité comme la vôtre? Être à l'écoute, empathique, je présume, déjà.
Absolument. Donc, être à l'écoute, empathique, mais surtout comprendre bien tous les mécanismes du cerveau. Et c'est pour ça que ma formation avec l'Institut des neurosciences appliquées me permet d'avoir deux éléments, c'est-à-dire tout ce que va me dire mon client sur tout son passé, je vais l'analyser, mais de l'autre côté, j'ai toute la partie neurosciences qui me permet de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il peut y avoir une demande complémentaire de quelque chose. J'ai un client voilà, où on voit qu'il y a un gros, gros trauma du passé et qui aurait besoin, très certainement, de quelques séances de MDR. Donc dans ce cas-là, je travaille avec un
D'accord.
psychologue ou un psychiatre et il va être libéré beaucoup plus rapidement avec cette technique de MDR. Et moi, je travaille beaucoup sur les conséquences et limiter le tout.
Ce serait à refaire. Votre parcours professionnel a été riche, hein,
Oui.
mais est-ce que quand vous avez 18, 20 ans, est-ce que vous vous dites pas, j'aurais pu prendre cette voie-là parce que ça me passionne?
Ça m'a toujours passionnée. Je vais même vous raconter, et je vais dire merci à mes parents pour ça. Quand j'ai fait mes études, j'étais douée en maths. Voilà. Donc, les profs voulaient absolument, et ils insistaient auprès de mes parents, il faut qu'elle fasse maths et tout. Voilà. Et en fait, non, j'ai toujours été attirée par les relations humaines, on va dire au sens large.
À l'opposé des matins.
C'est à l'opposé des maths. Voilà. Et j'ai eu la chance que mes parents m'écoutent et me laissent choisir ma voie. Et ça, heureusement, parce que si j'étais allée en maths, j'aurais été très malheureuse. Et là, en plus, à l'époque, ils disaient, attendez, non, non, on ne va pas aller dans l'humain avec les capacités qu'elle a en maths. Non, j'y suis allée. Et en fait, toute ma vie, le fil conducteur de ma carrière qui est riche et diversifiée, quand même, il y a quand même toujours un fil conducteur, c'est les relations humaines et toujours être au mieux dans sa vie. Que ça soit en matière de communication, mais également de management. J'ai formé des managers, je les ai accompagnés en tant que consultante pour qu'ils souffrent moins de leur management, mais aussi pour que leurs équipes soient avec un bon manager. Donc, pour moi, ça n'est qu'une continuité, même si ça n'est pas une ligne droite, c'est toujours un plus, des compétences supplémentaires, supplémentaires que j'acquiers au fur et à mesure de
Oui,
ma
vous avez
vie.
beaucoup appris au travers des rencontres avec les autres et de l'écoute
Ah
que
oui.
vous pouvez avoir.
Oui.
On reçoit beaucoup aussi.
On reçoit énormément, énormément. Moi, j'ai cette technique, mais de voir que je peux aider, que ça soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, dans l'éducation de ses enfants, de voir les personnes qui vont mieux et surtout de voir leur sourire. À ma dernière conférence sur les peurs et anxiétés, il y a une personne qui m'a dit que, en repartant, les gens avaient plus la pêche et plus le sourire.
Qu'en arrivant.
Ah oui. Et ça, mais pour moi, c'est du pur bonheur.
C'est vrai que vous avez une certaine dynamique dans la présentation de tout cela. C'était effectivement fort apprécié. Yolande Pagelot, on peut vous retrouver où et comment? Comment peut-on faire pour vous contacter?
Alors, mon site internet va bientôt sortir, je dirais. Oui, il est en préparation.
Il n'y a pas de nom encore.
Ça sera tout simplement Yolande Pagelot.
Ah, d'accord,
C'est
ok.
ma marque, c'est
Ouais.
mon nom. Voilà, c'est moi, tout simplement. Et allez, on va dire que si vous vous connectez début juillet, vous êtes sûr que vous aurez
D'accord.
mon site internet. Et sinon, vous me retrouvez sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, vous y verrez le détail de ma carrière, mais vous y verrez également beaucoup de choses sur les neurosciences et sur les dernières conférences que j'ai faites. Et puis, il y aura, une fois la sortie de mon site internet, à partir de juillet, je vais créer ma chaîne YouTube.
Ah, c'est bon.
Et oui, parce que une conférence, c'est bien, mais il faut pouvoir y venir. Alors que
Ouais.
sur YouTube, et je donnerai plein de petits trucs. N'oubliez pas, comprendre, analyser pour agir, pour aller mieux. Donc j'y traiterai également les peurs, les anxiétés, mais aussi la colère. Parce qu'il faut savoir que la colère, ça c'est quand même quelque chose de terrible. Voilà. J'expliquerai comment au niveau
Ça fait
différents
du bien
travaux.
d'exprimer sa colère quelquefois.
Alors.
Parlons-en, tiens.
Alors, parlons de la colère. Oui, ça me plaît bien, ça, la colère aussi,
Parfois, je
parce
me
que...
permets de vous dire un truc, parfois je trouve que les gens sont pas assez en colère
Alors...
pour des sujets de la vie quotidienne, hein.
Donc, la colère, et d'ailleurs toutes les émotions, hein, que ce soit la tristesse, la peur ou autre, lorsque nous avons ces émotions-là, c'est que notre cerveau a choisi de nous envoyer cette émotion-là. Face à un événement, certains vont être agacés, énervés, tristes ou en colère pour le même événement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça a été envoyé. Donc la tristesse ou autre, c'est quelque chose que seule la personne va encaisser et de devoir gérer seule. Par contre, la colère, vous avez raison, il faut en parler. C'est normal d'être en colère
Mais
pour
si c'est
quelque
une
chose.
injustice, on peut pas, il faut se mettre en
Il
colère,
faut
j'allais
se
dire.
mettre en colère. Voilà. Ce qui est important, c'est comment vous allez exprimer votre colère. Si jamais, admettons que ça soit une colère face à une personne, elle a fait quelque chose, mais alors ça vous met dans une colère. Si vous lâchez tout de suite votre colère contre la personne, vous allez crier, vous allez être énervé, vous allez vous défouler dessus, et surtout, vous allez même dire des choses que vous ne pensez pas. Donc là, le petit plus que je vais vous expliquer, c'est que dans le cerveau, la partie qui va gérer la colère ou la peur, ces deux émotions qui sont puissantes, c'est l'amygdale avec l'hippocampe. Allez, je vous passe les détails. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ça devient très fort, une énorme peur ou une grosse colère, c'est que la réaction que vous allez avoir à ces émotions-là va couper la partie du cerveau qui est capable de réfléchir posément, d'analyser
D'analyser.
et de faire les choses. Cette partie-là, sur le moment, elle ne fonctionne pas. Donc si vous laissez aller votre colère et que vous la défoulez contre la personne en face, vous allez dire des choses qu'après vous allez regretter.
C'est souvent le cas, on dit, j'aurais pas dû parler à chaud.
Oui, je t'ai dit ça, mais tu sais bien que je ne le pensais pas, ni rien. Sauf que
Ça a été dit, ça a été entendu.
ça a été dit, ça a été entendu. Et même si on s'excuse après, vous lui ressortirez peut-être 3 mois après. Tu te souviens la dernière fois quand tu m'as dit ça? Mais je t'ai dit que je ne le pensais pas. Oui, mais tu me l'as dit. Voilà. Donc ça, la colère et la peur, ce sont des choses qui empêchent la réflexion. Donc, on revient à la colère. Quand vous êtes en colère, sur le moment, il faut stopper. Parce que ce qui va être mauvais, c'est la façon dont vous allez l'exprimer, votre colère. Donc la personne vous met en colère, vous sentez la rage qui vous monte, vous avez envie d'y aller, vous vous dites non, stop. Pas sous le coup de la colère. On fait redescendre. On respire bien, tranquillement. On fait redescendre l'intensité de la colère. Et seulement une fois que cette intensité-là, elle est descendue, là, vous pouvez avoir une conversation avec la personne. En disant, écoute, ce que tu m'as fait, là, franchement, ça m'a mis en colère. Bon, je me suis calmée et tout, mais j'aimerais bien qu'on en discute. Et là, vous n'allez pas faire mal. Parce que il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs, l'effet miroir. C'est-à-dire que quand vous déclenchez votre colère, automatiquement, la personne va ressentir aussi de la colère, qu'elle n'exprimera peut-être pas. Elle va vous laisser vous défouler, dire tout ce que vous avez et tout, et vous allez vous excuser derrière. Elle, elle n'aura peut-être rien dit. Mais n'empêche que elle l'aura encaissé. Elle aura aussi de la colère contre vous parce que vous vous êtes exprimé de façon colérique vis-à-vis d'elle. Alors que si vous savez la maîtriser sur le moment et que vous pouvez après en parler calmement, il n'y aura pas d'horribles choses qui auront été dites et vous n'aurez pas provoqué la colère chez la personne en face.
C'est ma grand-mère Mathilde qui avait raison alors quand elle me disait « passe une bonne nuit dessus ».
Oui, oui, on reviendra dessus, on en reparlera demain. Quand tu seras calmé, voilà, calme-toi d'abord.
Alors, il y a des colères qui sont bonnes à avoir aussi, hein, on en parlait.
Oui. Ouais. Oui, alors...
Sur les injustices.
Injustices, voilà. Ouais. Derrière, il y a deux mots qui vont être importants. Action ou réaction. Une injustice, sur le moment, va vous envoyer la colère. Ça, c'est une réaction. Mais si on pose la réaction... On peut passer à l'action. J'ai vu cette injustice-là. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour contrer cette injustice? Voilà. Là, vous faites travailler le cerveau gauche, celui qui va réfléchir à l'action. Qu'est-ce que je vais faire et tout face à ce qui vient de se passer? Alors que si vous êtes dans la réaction, alors là, vous lâchez votre colère, vous vous défoulez sur la personne. Mais vous n'aurez pas fait avancer les choses.
On perd de l'énergie au détriment de l'action, finalement.
Exactement. Et aussi, là, on va aller plus loin, mais on peut avoir un instant une colère sur quelque chose. Plus on va avoir de colère sur quelque chose, plus on risque de rentrer, dans un état et devenir colérique. Vous voyez, c'est comme la peur. On peut avoir plein de peurs, mais on peut rentrer dans un état d'anxiété. Si vous avez des colères, que vous ne savez pas les maîtriser et qu'à chaque fois, hop, ça va y aller, vous allez devenir quelqu'un de colérique. Et c'est pareil, colérique, vous ne serez pas heureux. Voilà. Et ce qui se passe aussi, et c'est ça qui me fait le plus peur quand on voit aussi l'évolution de notre monde, c'est que colère, je deviens colérique, mais après, au-dessus, je peux avoir la rage, et malheureusement, au-dessus de la rage, c'est la haine. Donc c'est un cercle vicieux. Donc il faut apprendre à maîtriser ses colères. Parce que c'est pareil, dans les colères, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique du cortisol, toutes des choses qui ne sont pas bonnes, et il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de joie, il n'y a plus toutes ces choses-là. Donc si on veut aller vers du bien-être, il faut maîtriser ses colères, il faut affronter ses peurs et empêcher que ça devienne des états anxieux ou des états colériques.
Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Nous étions très heureux aujourd'hui de rencontrer Yolande Pagelot. On aurait pu continuer des heures, mais vous revenez quand vous voulez. On passera un agréable moment ensemble. Yolande Pagelot, coach et conférencière, on se dit à bientôt.
Oh oui, avec grand plaisir. Et un grand merci à vous, Jean-Marie. Et un petit message à tous. On peut changer, on peut évoluer pour aller vers plus de bonheur. Et je vous le souhaite très sincèrement.
Merci, à tout bientôt. C'était Jean-Marie Vanesson pour RPL Radio. Bonne journée.
RPL, l'autre style de radio.